Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture, la preuve. On va parler de Jules Verne et des Jackson 5. Ouais, ça va bien ensemble. Vous pouvez nous suivre évidemment en vidéo sur le site europe1.fr. Notre infomédia, on va parler gastronomie. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire la gastronomie dans une émission média? Eh bien justement, à cause d'une nouvelle tendance, via les réseaux sociaux, de plus en plus de restaurants choisissent les plats qu'ils mettent à la carte, non plus en fonction de leur goût, est-ce que c'est bon ou pas, mais en fonction de leur potentiel Instagram, est-ce que c'est liké ou pas, enquête. Du très savoureux ensuite, et des très gros noms, Christophe Ondelat, il vient nous parler de Ondelat raconte sur Europe 1 évidemment, du podcast, mais également de ses projets télé, avec ou sans son fameux blouson. Enfin, Cadmerade, il vient pour Ami, une pièce d'Amanda Sters et David Foenkinos, pièce qu'il met en scène, une réflexion très drôle autour de l'amitié. Et évidemment, on va lui parler de la saison 3 de Baron Noir. Hélène Manarino va faire son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour à tous. On commence avec votre journal des médias comme chaque matin. Cyril, qu'est-ce que vous avez en stock?
Netflix qui en veut à votre portefeuille. Daphné Burki qui étoffe l'équipe de sa future émission. Xavier Niel qui prend goût au quotidien. Franck Riester qui menace les syndicats de Radio France et subit quelques problèmes auditifs. Et pour finir, la réponse à une question qu'on se posait hier.
Mon début de Cyril, comme le veut la coutume par les audiences d'hier, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé?
Hier, ils ont regardé un capitaine. Et ce capitaine, il s'appelle Capitaine Marlowe et ils l'ont regardé massivement. 6 959 000 personnes étaient devant France 3 hier soir. C'est mieux que le précédent épisode et ça représente plus de 31% de part de marché.
Vous dites le chiffre 6 millions combien ?
6 950 000 personnes.
En disant les autres audiences qui avaient cartonné cette semaine qui était numéro 1, c'était entre 3 et 4 millions. Donc là, c'est vraiment...
Le phénomène Capitaine Marlowe, sans aucun doute. Quand on regarde la courbe, on voit qu'elle écrase absolument tout et elle écrase tout ce qui suit, c'est-à-dire TF1, sa série Magnum, suivie par 2,5 millions de personnes, et France 2 et son film Everest, 1,7 million de personnes seulement. Vous voyez à quel point Capitaine Marlowe a écrasé la concurrence. Un dernier mot sur les audiences, pour vous dire que M6 a terminé hier le dernier épisode de son émission « Qui veut être mon associé ?». Elle a été suivie par 1,345 000 personnes. Elle termine moins bien que ce qu'elle avait commencé. Elle a un démarrage qui avait déjà été faible, 1,5 million de téléspectateurs à l'époque. Et pourtant, ça n'a pas empêché chez Nicolas de Taverneau de déjà annoncer qu'il y aurait une saison 2 à Qui veut être mon associé.
Parce que de mémoire, les numéros 2, 3 et 4 avaient fait mieux que le numéro 1, ça avait remonté et donc là ça a décliné. Mais
ça,
de toute façon,
décline un peu, ouais.
Quand on est en face de Capitaine Marlowe, c'est comme si on était dans un tsunami, on se fait emporter. Cyril, le journal des médias qui démarre maintenant et qui débute avec Netflix. Netflix qui a décidé de changer ses règles de fonctionnement.
Les 30 jours gratuits, le temps de vous gaver de You, de The Crown, de Narcos, eh bien c'est terminé. Netflix a décidé que les Français, les Espagnols, les Danois et les Anglais ne pourraient plus passer par la case gratuit avant de décider s'ils veulent s'abonner au service de vidéo. À la place, ceux qui veulent essayer l'expérience Netflix devront se contenter de certains contenus que la plateforme met gracieusement à leur disposition. Mais attention, leur nombre sera très limité. Alors bonne ou mauvaise idée, ce qu'on peut dire, c'est que si Netflix a décidé de supprimer son mois gratuit dans certains pays, c'est qu'il y est déjà extrêmement bien implanté et que la concurrence ne lui fait pas peur, en tout cas pas pour le moment. Par exemple, aux États-Unis, le mois gratuit reste bel et bien d'actualité. Et ce n'est pas un hasard, c'est là-bas que Netflix est le plus sévèrement soumis à la concurrence, notamment celle de Disney qui a fait des ravages depuis son lancement. Disney Plus compte déjà plus de 28 millions d'abonnés 3 mois seulement après son lancement.
Ce qui est juste complètement phénoménal, on entendait 3 fois ou 4 fois moins. Cyril, on en sait maintenant un peu plus sur le casting de la nouvelle émission de Daphné Burki.
Ouais, de nouveau sont annoncés ce matin par Le Parisien, Leïla Kaddour, qu'on connaît et qui présente les journaux de 13h du week-end de France 2, et un revenant, Bertrand Chameroy, ex-membre de Touche pas à mon poste, s'apprête à tourner un nouveau pilote de cette émission, notamment consacré aux médias. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Bertrand Chameroy à la télé. La dernière fois, c'était sur W9, dans l'émission OVNI, l'info retournée, qui avait été annulée après sa première saison. L'émission de Daphné Burki doit être lancée courant mars. C'est un pilote, c'est comme ça qu'on appelle une émission test dans le jargon, va être tournée ce samedi et son petit nom aujourd'hui, c'est Contrebande.
Xavier Niel, serait-il en train de continuer ses emplettes sur le marché des quotidiens?
Après avoir finalisé le rachat de Nice Matin, le fondateur et patron de Free serait cette fois intéressé par France Antilles. Le quotidien publié en Guadeloupe et en Martinique avait été placé en liquidation judiciaire, mais il pourrait finalement être sauvé. Lors d'une audience hier au tribunal de Fort-de-France, le juge a décidé de donner un peu de temps à l'entreprise pour se trouver un repreneur. En cause, une proposition de Xavier Niel, donc. Si celle-ci n'a pas encore été détaillée, elle arrive comme un miracle pour les salariés de France Antilles qui croyaient leur avenir scellé. Créé il y a 56 ans, le quotidien doit faire face à d'importantes difficultés financières. Selon les Échos, en 2018, ses pertes s'élevaient à 6 millions d'euros.
C'est vraiment une très très bonne nouvelle, puisque nous recevions la semaine dernière des journalistes justement de France Antilles. On disait que c'était le premier département dans lequel il n'y aurait plus de quotidien. Espérons que la chose se fasse. Cyril, le ministère de la Culture fait planer une nouvelle menace sur Radio France.
Cette menace, c'est de limiter le droit de grève pour les antennes du service public. C'est ce qu'a brandi Franck Riester, le ministre de la Culture, au syndicat de Radio France fin janvier lors d'une rencontre que raconte le Figaro ce matin. Face à ses interlocuteurs, le ministre a haussé le ton. Alors que Radio France connaissait la plus longue grève de son histoire, le ministre les a prévenus qu'il risquait gros, notamment que des députés veuillent faire entendre leur ras-le-bol et dégainent un amendement pour limiter leur droit de grève lors du prochain débat sur la loi audiovisuelle. Une manière pour les parlementaires d'instaurer une continuité du service public comme cela peut déjà exister dans les transports en commun.
Et Cyril, on reste avec Franck Riester, mais cette fois, quoi, un problème d'acouphène ?
Eh oui, il a raison, des problèmes auditifs du ministre, c'est ça. C'est le refrain de la chanson de Tom Leb, The Best in Me. Le représentant de la France à l'Eurovision, et le moins qu'on puisse dire, c'est que notre ministre de la Culture ne semble pas prêt à lui donner la meilleure note. Écoutez ce qu'il disait hier lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
C'est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais. Ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio, mais j'ai, sachez-le, fait passer le message de mon étonnement quant à une chanson dont le refrain est écrit en anglais. Chacun à sa place doit être exemplaire et montrer l'exemple, donc. Pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout, tout le temps.
On sent le ministre légèrement gêné aux entournures. Décidément, les astres ne semblent pas très favorables à Tom Leb. Hier, je vous disais que les bookmakers ne lui donnaient pas plus de 2% de chance de l'emporter. Mais, les critiques des membres du gouvernement n'ont pas toujours porté la poisse aux candidats de l'Eurovision. Au contraire, en 2016, André Valigny, alors secrétaire d'État en charge de la francophonie, avait déjà critiqué le choix de cette chanson. La chanson d'Amir Haddad, dont le refrain en anglais ne plaisait pas à André Valigny, s'était classée en 6e position à l'époque, une des meilleures performances françaises de ces dernières années. André Valigny avait remis le couvert l'année suivante, cette fois avec la chanson d'Alma Requiem, mais cette fois sans lui porter chance. Alma avait fini 12e de l'Eurovision. Alors, Tom Leb, plutôt Amir ou Alma ? Réponse, le 16 mai à Rotterdam et sur France 2, bien sûr.
Et puis Cyril, hier, vous nous aviez parlé d'Interville qui va prendre ses quartiers à Disneyland Paris, la nouvelle version d'Interville, et je vous ai posé une question.
Oui Philippe, vous m'avez demandé comment s'est noué le deal entre eux, d'un côté le parc d'attractions et de l'autre France 2. J'ai donc moi-même posé la question et j'ai la réponse à votre question. Il s'agit donc à peu de choses près de ce qu'on appelle un échange de marchandises. D'un côté, Disneyland Paris met à la disposition d'Interville l'ensemble des lieux qui serviront au tournage de ses émissions. Et de l'autre, France 2 offre de la publicité à Disneyland Paris. Et comme le compte n'y est pas tout à fait, Disneyland Paris achètera en sus d'autres espaces publicitaires auprès de France 2. Et c'est comme ça que chacun trouve son compte entre la chaîne, la production et le parc d'attractions. Un win-win, comme on dit dans le business.
Merci Cyril Lacarrière, quel winner. On se retrouve demain pour un nouveau Journal des médias.
À suivre, l'info média du jour avec au programme la communication des restaurants à l'heure des réseaux sociaux. On en parle avec nos invités dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'archive de l'info média du jour.
Oui, c'est une enquête édifiante diffusée dans le dernier 20h30 le samedi de Laurent Delahousse qui a suscité notre info média du jour. Question, vous est-il déjà arrivé de choisir votre restaurant en fonction de la beauté des plats qu'il sert ? Autre question, vous est-il déjà arrivé de prendre votre plat en photo et de le poster sur Instagram avant même de l'avoir goûté ? Si oui, eh bien vous faites partie des 40% des Français qui dégainent leur smartphone à l'arrivée de la commande selon une étude de Marseille.
mars 2009 d'Opinion Ouest. C'était pour le festival culinaire Taste of Paris. Ça va même plus loin, 2019, me dit-on dans l'oreillette. Ça va même plus loin. Certains restaurants qui ouvrent composent leur carte en fonction non pas du goût des aliments choisis, mais de leur photogénie. Pour en parler, nous sommes avec Mélissa Ravel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef au Country Yard Paris Gare de Lyon. Bonjour et bienvenue. Et Émilie Lesure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la rubrique cuisine au Journal des Femmes. Question à toutes les deux, c'est quoi votre dernier post Instagram, Émilie?
Alors moi, en termes de food, mon dernier post, c'est un méga fondant qui vient d'un... C'est un plat, en gros, coquillettes, jambon, tout ce qu'il y a de plus régressif.
D'accord. Et Mélissa?
Eh ben moi, c'est des ravioles que j'ai fait hier, pour mettre en avant ce qu'on fait en cuisine au Courtyard, avec l'équipe.
Mélissa Ravel, on a fait le test. Quand on tape votre nom sur Internet, la première réponse qui sort, c'est d'abord votre compte Instagram, puis votre profil professionnel LinkedIn, puis les avis de TripAdvisor sur votre resto. Est-ce qu'en 2020, on peut avoir un restaurant sans avoir de compte Instagram, sans passer par les réseaux sociaux?
Alors, pour moi, Instagram, c'est une belle vitrine. C'est une vitrine qui fait que les personnes ont envie de venir. Donc, je pense qu'on peut toujours ouvrir un restaurant sans poster sur Instagram. Mais effectivement, quand on a un bel Instagram bien tenu, on a envie de partager.
Ce qui est votre cas?
J'essaye.
C'est un nouvel endroit qui vient d'ouvrir à Paris.
Oui.
Est-ce que le fait d'avoir un compte Instagram bien tenu, comme vous dites, faisait partie de votre CV?
Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai été recrutée grâce à mon compte
c'est
Instagram.
Pas vrai.
Tout à fait. Donc, je le maintiens seul. C'est mes propres photos. Mais mon directeur général, Monsieur Henri Michel, m'a recrutée grâce à mon Instagram. Tout à fait.
Mais ils ont goûté les plats quand même après.
Il est venu me trouver dans mon restaurant.
Mais
précédent.
D'abord Insta. Émilie Lesure, la même question à peu de choses près. Est-ce qu'on peut être journaliste culinaire et ne pas avoir de compte Instagram?
Je ne pense pas, parce que c'est la meilleure façon en fait de montrer ses goûts, de montrer son identité culinaire, ce qu'on ouais. aime, ce que l'on goûte au quotidien. Donc je pense que ça, c'est la même chose. On m'a déjà proposé des choses via mon compte Instagram.
Mélissa Ravel, je disais en introduction, selon une étude, 40% des Français dégainent leur téléphone à l'arrivée de la commande. Est-ce que c'est le cas dans votre resto? Est-ce que vous voyez les téléphones qui s'approchent des plats à peine posés sur la table?
Tout à fait. Et j'ai parfois même des appels ou des messages via mon compte Instagram de certains clients qui viennent nous remercier ou qui viennent nous montrer qu'ils ont apprécié via une photo sur les réseaux.
Mais pas pendant que vous êtes en cuisine. Vous
tout
regardez
à fait.
Pas. Si, vous regardez votre téléphone pendant que vous êtes en cuisine.
Je le vois après le service et
d'accord,
je le partage.
D'accord, mais vous ne regardez pas pendant.
Non.
Sur Instagram, 218 millions de photos ont été postées avec le hashtag foodporn. On peut dire ce que c'est que du foodporn? C'est pas de la bouffe porno, c'est quoi du foodporn?
Alors, ça va être une photo avec un aspect visuel qui donne complètement envie, qui nous séduit. Voilà, ça va être un burger un petit peu dégoulinant. Ça va être un gâteau au chocolat qui paraît méga fondant rien qu'en le regardant en photo.
Voilà, d'où le mot porn.
Voilà.
Voilà, parce que ça dégouline un petit peu. Je ne vais pas aller au-delà de cette description. Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons? C'est justement le thème du dernier podcast Manger. C'est réalisé par Lauriane Mellière. C'est signé du studio de podcast Louis Média. Et vous allez entendre cet épisode. On n'a passé qu'un extrait, évidemment. On va entendre les serveurs d'un resto parisien bien conscients de l'aspect instagrammable. C'est comme ça qu'on dit. De leur plat.
Dès que ça arrive sur table, ils prennent en photo et ils font waouh, c'est joli, c'est appétissant, donc ils prennent en photo et on a des plats qui sont assez travaillés, mais c'est très important que la présentation justement et le côté visuel soit bien travaillé pour qu'ensuite on retrouve ça sur les réseaux sociaux.
Ça a l'air d'être totalement ancré dans les mœurs, en tout cas les mœurs parisiennes et dans les grandes villes. Vous êtes jeune, mais quand même, selon vous, depuis quand c'est totalement entré dans les mœurs? C'était pas comme ça quand vous avez démarré, quand vous avez fait l'école hôtelière?
Non, pas du tout.
C'est arrivé quand cette irruption d'Instagram?
Comme moi, je dirais entre 2012-2013, au rachat de Instagram par Facebook. Instagram a pris une énorme place dans nos vies côté réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où on commence à voir des études aussi publiées, comme des études américaines qui, sur par exemple, en 2013, il y avait une étude qui montrait que prendre en photo son plat, c'était en gros célébrer quelque chose avant de manger. Du coup, on appréciait d'autant plus ce qu'on allait manger juste après.
Une manière de narguer les autres en disant « Regarde-moi ce que je bouffe et toi, chez toi, t'es avec tes croquettes pour chat ?»
Peut-être pas, c'est une notion de partage.
Vous voulez dire quelque
et
chose?
Et le souvenir, oui, c'est du souvenir aussi. Posté sur Instagram ou en tant que chef de cuisine, quand on poste, c'est aussi pour se remémorer ce qu'on a créé, ce qu'on a fait ensemble et le partager...
Vous avez raison, je viens d'y penser. Si on fait la photo de l'assiette vide une fois que c'était bon, c'est nul, puisqu'il n'y a plus rien dans l'assiette. On est obligé de faire la photo avant. Il y a des restaurants qui ne cuisinent qu'un seul ingrédient, on le sait, souvent des ingrédients absolument excellents, comme des restaurants qui ne font que du bar, noble poisson s'il en est, ou du homard, c'est délicieux. Mais j'ai découvert dans le 20h30 le samedi l'émission de Laurent Delahousse sur France 2, pour quelle raison il y a un resto qui vient d'ouvrir qui ne propose qu'un seul aliment, pour le moins banal, l'avocat. Extrait.
Sur les réseaux sociaux, il y a une star internationale. Le toast à l'avocat. Il y a même des restos qui ne font que ça. Tina Meyer est critique gastronomique.
Aujourd'hui, on pense le restaurant pour inciter au maximum les gens à prendre des photos. Mais c'est une beauté qui est pensée pour Instagram.
Mélissa Ravel, vous cuisinez l'avocat ou pas ?
Pas vraiment.
Non.
Ou alors sur la bonne saison.
Il y a beaucoup de poids, parce que c'est pas la saison, c'est ça qui est complètement dingue. C'est que ce restaurant qui est à Paris, tous ses plats contiennent de l'avocat, et c'est juste parce que c'est très vert et que c'est très 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 photogénique. Il y a beaucoup de poulpe en revanche, Mélissa, sur votre compte Instagram. Est-ce que c'est Instagrammable le poulpe ?
Oui, je pense, parce que c'est quelque chose de très visuel, c'est quelque chose d'original, et c'est quelque chose. Enfin, c'est un produit qui va avec avec une multitude d'autres produits en fait. Tout peut aller avec le poulpe. Et
Oui, mais visuellement.
Visuellement, c'est très joli. Une belle tentacule, bien travaillée. Ça peut valoir son pesant d'or.
Mélissa Ravel, vous dites que vous allez carrément au musée pour vous inspirer de tableaux d'art abstrait pour dresser vos assiettes. Racontez-nous ça, expliquez par exemple.
Eh bien, écoutez, par exemple, je vais voir, je vais souvent au centre Georges Pompidou.
Ouais.
Donc, je suis inspirée par des artistes comme Paul Klee, comme Kandinsky, comme Jackson Pollock.
Ouais. Pollock, quand je cuisine, ça fait ça.
et du coup, en fait, je construis mes assiettes comme des tableaux. Je les regarde d'en haut comme si on pouvait, comme une œuvre, en fait. Donc, il faut savoir que c'est éphémère aussi. Donc, c'est de l'instinct, la cuisine.
Et vous publiez même sur Insta des timelapses de vos mises en place de poisson, par exemple. Déjà, on va dire ce qu'est une timelapse.
Oui.
Je ne sais pas si j'arrive à bien le prononcer, d'ailleurs.
Je pense.
Allez-y, qu'est-ce que c'est une timelapse ?
C'est une vidéo en accéléré. Donc, je pose mon téléphone un petit peu au-dessus de moi, au-dessus de ma planche de travail, pour montrer les techniques culinaires qu'on utilise en cuisine.
Et la question que tout le monde se pose, supposons que vous fassiez un plat qui est très, très beau, mm-hmm. mais qu'au goût, il est un peu moyen. Qu'est-ce que vous faites ? Non. Vous le retirez de la carte ou vous le gardez quand même parce qu'il a beaucoup de succès ?
Non, la cuisine c'est un art et c'est un art qui est complet. Donc il faut que ça soit aussi bien dans le goût que dans le visuel. S'il y a le visuel mais pas le goût, il n'y a aucun intérêt à un plat.
Qu'est-ce que ça va changer au business de la gastronomie ? Qu'est-ce que ça va changer pour nous dans l'assiette ? Vous restez avec nous, on continue.
Dans l'infomédia du jour, on parle de la communication des restaurants à l'heure d'Instagram et on y revient avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Instagram, vous êtes peut-être à choisir votre restaurant, en tout cas c'est le cas pour beaucoup. On parle de ce phénomène de la communication des restaurants à l'ère des réseaux sociaux, Philippe, avec nos invités. La chef Mélissa Ravel, chef du Courtyard, qui se trouve à Paris, Gare de Lyon, restaurant évidemment, et puis Émilie Le Sueur, responsable de la rubrique cuisine au Journal des Femmes.
Émilie Le Sueur, un mot sur le Journal des Femmes, parce qu'on est aussi et surtout une émission média. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pure player, c'est sur Internet, c'est un journal papier, ce sont les deux, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un pure player, on a fait un petit peu de magazine, mais maintenant on se concentre que sur Internet, et c'est le premier média féminin sur le web.
Français. Vraiment ? Vous savez qu'il y a tellement de journaux qui disent qu'ils sont les premiers que maintenant j'arrive plus à croire qu'on est les premiers.
Médiamétrie le dit très très bien également.
Et quelle est la part de la cuisine, de la food dans ce succès ?
Alors on est en moyenne entre 40 et 60% de l'audience du site portée par la rubrique cuisine, avec notamment les recettes qui sont vraiment le nerf de la guerre chez nous, et avec beaucoup de photos en plus qui peuvent parfois finir sur Instagram, parce que des déposants, en fait, des internautes, vous, moi qui aime cuisiner, déposent chaque jour des recettes sur le Journal des Femmes.
Donc j'imagine que vous devez être extrêmement courtisé.
Pas mal courtisé, en effet. Des propositions pour tester des produits comme des restaurants.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait choisir un restaurant ? C'est des papiers, c'est des images. On revient à notre sujet. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un resto juste parce que vous avez eu des photos qui vous ont plu ? En dehors, évidemment, du décor, parce que le décor, ça compte.
Alors oui, et via Instagram notamment. Par exemple, pour un brunch un dimanche, eh bien, je vais aller regarder Brunch Paris, le hashtag, sur Instagram. Et je vais aller voir quels sont les restos proches de chez moi ou alors avec une photo qui me séduit complètement.
Mais ce qu'on lit, ce sont des avis ou est-ce que ce sont juste des photos et juste vous pouvez vous décider sur une photo, comme on se décide pour un joli petit chat.
Je dois le confesser, je choisis beaucoup par la photo essentiellement et ensuite je regarde quand même les avis parce que le goût reste quand même essentiel quand on va dans un restaurant.
Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure Mélissa, faire des belles photos sur Insta, ça peut permettre de se faire embaucher comme cuisinier. C'est ce qui est arrivé à Julien Sebag, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait la cuisine et le show, il est au Bus Palladium à Paris. Je l'ai découvert, moi je ne le connaissais pas, dans l'émission 20h30 le samedi, présenté par Laurent Delahousse, Portrait, c'était samedi.
Tout ça est très appétissant, pourtant il n'a pas fait d'école hôtelière. Il s'est fait connaître grâce aux photos de ses plats qu'il postait sur Internet.
J'ai commencé en faisant des recettes chez moi, en les postant sur Instagram. Et de là, on m'a demandé si j'étais d'accord pour cuisiner chez des gens. De fil en aiguille, je me retrouve à cuisiner toutes les semaines dans ma boîte préférée. Et c'est vrai que moi, sans Instagram, j'en serais jamais là aujourd'hui, jamais.
Mélissa Ravel, ça vous fait sourire, pour quelle raison ?
Ben, parce que pour moi, c'est de la publicité et enfin quand on poste sur Instagram c'est une photo qui peut être travaillée comment dire si vous voulez quand on dresse on peut dresser des dizaines des centaines d'assiettes et il y a une assiette qui va faire la différence qui va être une brindille d'herbe qui va être posée différemment et c'est ça qui va faire la différence en fait quand on dresse on peut en dresser des centaines avant d'avoir quelque chose qui est vraiment harmonieux et qui fait que ça fait un dressage
mais vous souriez,
de l'art.
Vous souriez parce que vous l'avez déjà fait ou vous souriez parce que vous ne mangez pas de ce pain-là ? Vous faites la photo, vous faites l'assiette, bim, vous faites la photo, vous la publiez. Ou est-ce que vous faites une centaine de photos d'assiettes différentes avant de publier ? Comment vous travaillez ?
Alors, tout dépend. Tout dépend. Quand c'est de la nouveauté, je dresse et je prends en photo, mais j'attends un peu avant de poster. C'est comme quand on crée une carte, si vous voulez, on dresse avant de trouver le dressage qui sera le dressage final et qui fera que ça sera le plus vendeur et le plus joli.
Émilie Le Sueur, vous voulez dire à ce sujet ?
Ouais, moi, ça me fait sourire par rapport... en fait, moi, quand je vais dans un restaurant, mon combat, par exemple, ça va être un restaurant où la lumière est très sombre, parce que pour prendre une photo, bah, après, il va falloir vraiment la travailler pour pouvoir la poster sur...
Attendez, votre combat, c'est-à-dire que vous demandez au restaurateur d'augmenter la lumière ?
Non, si je suis accompagnée, je vais demander est-ce que tu peux mettre le flash par-dessus la photo. Après, j'évite, parce que ça peut quand même perturber les tables à côté.
Ouais.
Mais si je peux le faire, je le fais.
D'accord. C'est devenu un outil de travail, vous l'avez dit. Mm-hmm. Vous continuez. Est-ce que vous pourriez embaucher quelqu'un pour travailler que sur cet aspect-là ? Ou est-ce que c'est encore de l'artisanat pour vous, Mélissa ?
Pour l'instant, non. Moi, j'aime le faire. J'aime agrémenter mon compte Instagram moi-même. C'est mon compte personnel. Et après, je peux balancer des photos à mon hôtel pour qu'ils les balancent ensuite sur leur compte Instagram. Mais pour l'instant, c'est mon propre travail et je n'ai pas envie de le partager.
J'explique à votre hôtel parce que le Country Yard, c'est d'abord un hôtel dans lequel il y a un restaurant dont... Courtyard, pardon, où vous occupez de la carte. Hier, je recevais Stéphane Rothenberg qui venait parler de la saison 11 de Top Chef. Est-ce que vous êtes client de ce genre d'émission ? Est-ce que là aussi, ça a changé la vision de la cuisine, selon vous ?
Ah bah, de toute façon, le voyage change la vision de la cuisine. Ça, c'est primordial. Donc oui, moi, je suis cliente de ce genre d'émission.
Non, Top Chef, c'est la cuisine, hein, c'est pas du voyage. Vous comprenez que Pékin Express...
Oulala, oui, hein, exact.
Et vous-même, est-ce que vous êtes cliente des émissions de cuisine avec des chefs cuisiniers et ce storytelling qui est de plus en plus ?
Complètement. Et en plus, voilà, pour tout vous dire, sur le Journal des Femmes, c'est un de nos articles en saison Top Chef qui va le plus marcher parce que les gens sont vraiment avides de connaître les secrets des coulisses, retrouver les recettes qui ont pu être partagées et je pense que ça a pu changer à travers au cours des années, c'est vraiment l'aspect critique que peuvent avoir aujourd'hui un client quand il va au restaurant.
C'est-à-dire expliquer.
Alors c'est-à-dire que on voit dans les émissions télé, on voit tellement de jolis dressages, de produits qu'on ne connaissait pas forcément, qu'aujourd'hui quand on va au restaurant, on s'attend à avoir ce type de dressage, ce type de surprise avec un ingrédient qui fait la différence, qu'on ne connaît pas, qui nous fait voyager les papilles. Voilà, je pense que en ça, ça a énormément changé notre mode de consommation, en tout cas au restaurant.
Vous pourriez participer à une émission comme celle-ci, Mélissa ?
J'aimerais bien, un jour, ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que ça serait intéressant aussi pour se jauger soi-même.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, je rappelle, Mélissa Ravel, vous êtes chef au Courtyard, j'arrive pas à le prononcer comme
Courtyard.
Il faut. Courtyard. Merci beaucoup. Paris, Gare de Lyon. Émilie Le Sur, vous êtes responsable de la cuisine, de la rubrique cuisine, je vais y arriver, au Journal des Femmes. Merci d'avoir été avec nous et bon appétit, même s'il est encore tôt.
Oui, on va encore parler gastronomie cet après-midi sur Europe 1 avec le chef toulousain Michel Sarron, qui est aussi un chef en termes de communication et qui sera l'invité de Mathieu Noël cet après-midi. Vous retrouverez votre équipe sauvage de 16h à 18h. Notre prochain invité connaît bien ce studio Lagardère puisque vous l'entendez chaque après-midi vous raconter des histoires incroyables. C'est Christophe Ondelat qui nous a rejoint et on l'accueille avec grand plaisir dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Christophe Ondelat.
Quel plaisir, bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour.
Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien, Christophe. Vous présentez Ondelat raconte du lundi au vendredi de 14h à 15h. Et c'est évidemment disponible en podcast. Ça marche très très bien, on va en reparler. Vous êtes célèbre dans toute la France et même une figure, puisque vous êtes le créateur de Faites Entrer l'Accusé et son célèbre blouson. Mais d'abord, petit détail technique, Christophe Ondelat. Comment faut-il prononcer votre nom, Ondelat ou alors Ondelat en trois syllabes?
Ah, je me suis longtemps battu pour qu'on prononce les syllabes, puisque moi je viens du sud-ouest de Bayonne, et donc chez moi on prononce toutes les... Donc on dit Ondelat. Maintenant après, j'ai longtemps demandé, notamment aux speakerines...
Mais oui, à RTL, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je leur disais, il fallait prononcer, puis après j'ai abandonné ce combat comme beaucoup d'autres.
Ce combat, vous retrouvez l'accent. Il y aura des accents. Ondelat raconte, c'est donc tous les jours de 14 à 15h, une heure de récit, lundi, vendredi, le samedi, il y a une rediff, c'est ça? Comment vous choisissez les histoires? Et d'abord, comment vous travaillez, Christophe?
Alors, on choisit les histoires, c'est mon équipe, Nicolas Loupien, Bettina Servant et Attika Boukara qui choisissent mes histoires. Ils lisent des livres, en fait, en continu. On achète beaucoup de livres sur le marché de l'occasion sur Internet. Ils les lisent et ils me disent, bah là, je pense qu'il y a une histoire. Et donc, le travail de préparation, alors il y a plusieurs graduations dans la préparation. Les affaires criminelles, c'est un cas à part, c'est un texte écrit que j'aurais écrit intégralement. Oui. Tous les autres sont des livres qu'on me donne surlignés. Je demande qu'on les surligne pour faciliter la lecture. Et moi, je travaille directement sur le livre, soit sans plan du tout, c'est-à-dire je me lance dans le bouquin et je me débrouille, soit on me propose un petit plan, soit on me propose un plan un peu plus détaillé. Mais je ne travaille pas sur texte, je travaille personnellement, tout seul, sur le livre, pour écrire mon texte.
Alors, je peux vous dire, Christophe Ondelat, il est au bout du couloir, il est dans son bureau, il passe son temps à travailler. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous demander comment vous choisissez les histoires. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?
Bah, une bonne histoire, c'est une histoire dont on ne devine pas la fin quand elle commence, qui est pleine de rebondissements.
Oh bah alors là, si. Ah bah alors celle du jour, on devine la fin, puisque ouais. C'est les trois derniers guillotinés. À Tarbes. Oui, donc on connaît la fin.
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils ont commis, etc. Donc voilà, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait des rebondissements. Et puis ce qui fonctionne très bien dans une bonne histoire, c'est les processus d'assimilation, c'est-à-dire est-ce que je peux m'assimiler à cette histoire? Qu'est-ce que j'aurais fait moi si ça m'était arrivé ou si j'avais été tenté de commettre ou de faire telle ou telle chose. Voilà, c'est ça une bonne histoire.
En 44, Pierre Sost, le maire du village de Créchet, est retrouvé mort dans sa cuisine. Créchet, pardonnez-moi, oui, on prononce comme ça. On prononce toutes les lettres. Mort dans sa cuisine avec sa mère, son domestique et l'un de ses amis. L'histoire se termine, vous le dites dès le début, par trois coups de lame sous la guillotine. Pourquoi cette histoire vous a-t-elle intéressé? J'en parle sur C'est celle du jour.
Alors, c'est une affaire criminelle de 1944 qui est jugée en 48 devant la cour d'assises. Ce seront les derniers condamnés à mort du département des Hautes-Pyrénées, de la cour d'assises de Tarbes. On fait venir la guillotine à Tarbes pour la dernière fois, puisqu'à cette époque-là, on fait venir la guillotine de Paris. Elle arrive par le train. En kit, avec le bourreau et ses assistants qui montent la guillotine, qui exécutent, qui démontent et qui rentrent à Paris. Comment on tombe sur cette histoire? On a quelques mines d'or et notamment un type qui s'appelle Coudache, Jean-François Lafourcade, qui est un ancien avocat de Tarbes et qui consacre sa retraite à aller fouiller dans les vieux dossiers et qui a fait des bouquins. Alors, il a fait des bouquins avec des histoires qui sont parfois un peu courtes, donc c'est un peu limite pour moi, mais celle-là, elle a les juste.
Alors, il y a un plaisir dans le récit, et on sent que vous prenez vous-même du plaisir dans le récit, et on comprend, vous écoutez, il y a des accents.
Il voit sur le sol de la grande pièce deux corps, dans une mare de sang. Oh, il députe. C'est Madame Rosalie. Il la reconnaît tout de suite. Et l'autre, c'est le domestique, Joachim. Et le maire? Eh bien, le maire, on ne sait pas où il est. Quoi qu'il en soit, Félix est tout tourneboulé, et donc, il rentre à la poste en courant. Il y retrouve sa femme.
J'arrive de chez Sost. La porte était fermée. J'ai regardé par la fenêtre. On a tué la mère. La Rosalie et Joachim aussi. Ils sont par terre dans le sang. Il faut que tu appelles les gendarmes de Loup-Barousse. Hein. Il faut les prévenir. Oh, Boudiou, Boudiou, quelle histoire!
Boudiou, pourquoi vous aimez à ce point faire les accents, Christophe Fondelat?
Il députe surtout.
Ouais. C'est ah, j'ai posé le relevé. Bon, enfin.
Il députe qui veut dire fils de pute en occitan.
Merci d'avoir traduit.
On a de rares occasions de le prononcer.
Pourquoi
à la
vous
radio,
aimez à pas... ce point faire les accents?
Bon, ceux du sud, du sud-ouest, en fait, de la graduation qui va de Marseille jusqu'à chez moi, à Bayonne, je les connais assez bien.
Non, mais attendez, je vous ai entendu faire l'accent coréen déjà.
Oui, alors, je peux raconter un secret là-dessus. En fait, les accents asiatiques, d'abord, bon, c'est pas très à la mode d'imiter les accents étrangers. Mais enfin, il faut quand même distinguer le personnage dans un récit. Donc moi, en gros, j'ai bien connu le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Je l'ai interviewé une ou deux fois, je l'ai approché, et il avait un accent extraordinaire. Il parlait comme ça, n'est-ce pas? Je fais comme ça, et alors, je suis sa majesté, etc. Et donc, en fait, tous mes accents asiatiques sont des imitations du prince Sihanouk du Cambodge.
Vous amusez, il y a aussi l'humour à volontaire. Dans l'histoire du jour, il y a trois condamnés à mort, je l'ai dit, trois Espagnols, et au petit matin, on vient chercher l'un d'entre eux.
Le petit groupe se dirige vers les cellules des condamnés à mort. Ils ouvrent d'abord la porte de Prieto. Il dormait.
Alors ? Je suis gracié ?
Comme personne ne répond, il comprend que non.
Allez Prieto, ne fais pas d'histoire, hein ? Habille-toi, tout va bien se passer.
Tout va bien se passer, il va quand même se faire couper la tête.
Ouais.
C'est de l'humour de vous, c'était dans le texte, où ils lui ont vraiment dit ça, tout va bien se passer.
Il lui a vraiment dit ça. Enfin, c'est ce que dit Koudache.
Ouais.
Moi, je n'ai pas la possibilité d'aller vérifier au-delà de ce que me dit ma source, mais c'est ce que dit Koudache. Ouais.
Puis j'aime beaucoup l'habillage sonore qui est très, très soigné. Petit
c'est
l'île
de Braze.
Ouais.
Et après, ça va très vite.
Bim. On le sent bien le petit coup, hein. Alors tout s'est bien passé. Là, au moins, t'as la paix après, hein.
C'est assez marrant parce que arrive quelque chose qui va être un petit événement dans l'émission. Je vais raconter en quatre épisodes comment Robert Badinter, à travers deux grands procès, s'est construit sa conviction contre la peine de mort. Et je n'ai pas mis dans le récit de Robert Badinter, qui est déjà enregistré, pas l'interview, mais le récit, je n'ai pas mis la chute de la guillotine. Parce que c'était trop frais, trop récent, trop insupportable. Là, on est en 48, je me suis dit, ça passe. Et avec Céline, on l'a mis. Voilà.
Je une seconde pour dire que vous allez plus loin que le simple récit. Vous avez retrouvé Jean-François Fourcade, vous en parliez, et vous lui avez posé une très bonne question.
Ils étaient au courant de ce qui s'était passé chez eux ?
Non, c'est moi qui leur ai appris. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
Et ça ne les a pas trop effrayés de dormir dans une maison où avait eu lieu un quadruple meurtre il y a 70 ans ?
Oui, non, pas du tout. Vous savez, ce sont des Anglais. Les Anglais ont un flegme britannique. Ils ont pris la chose, non pas comme un honneur, mais comme une petite gloire personnelle d'habiter un lieu dans lequel il y a eu
il s'est passé
un
quelque chose.
De crime.
Non, mais là où c'est génial, c'est que grâce à vous, j'ai appris que la maison d'hôte à Créchette, il y a eu un mort. Maintenant, tout le monde est au courant.
Il y a quatre morts. Il y a quatre morts dans cette maison. Et c'est une maison d'hôte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un hôtel en Haute-Loire, je crois me souvenir, l'Auberge Rouge, qui a hébergé deux guillotinés. Il y a eu deux personnes guillotinées devant la porte.
Ouais.
Hein, la guillotine, à l'époque, était déplacée sur les lieux du crime. Et l'hôtel, à contrario, en joue.
Ah ouais.
C'est-à-dire, dit, venez dormir là où ont été guillotinés les tueurs de l'Auberge Rouge.
Je souhaite un bon week-end à tous nos auditeurs qui s'apprêtent à partir en villégiature. On se retrouve juste après ça, Céline.
Oui, il est né un 17 décembre à Bayonne. Violoncelliste, il s'est d'abord lancé dans la musique avec un spectacle « Dans ma maison, tu viendras ». Il est aussi intervenu dans le doublage de Ratatouille. Merci Wikipédia. Aujourd'hui, sa maison est devenue bleue, elle s'appelle Europe 1 et il nous fait vibrer chaque après-midi de 14h à 15h avec son émission « Ondelat raconte ». C'est Christophe Ondelat qui est notre invité et il reste avec nous sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
De fait, entrer l'accusé à Ondelat raconte, c'est Christophe Ondelat qui est notre invité dans Culture Média ce matin, Philippe.
Est-ce que vous connaissez, Christophe, vos sujets de cette semaine ?
Parce qu'après les trois guillotinés de Tarbes, les derniers, moi je les ai regardés. Si vous n'avez pas en tête, je peux vous les dire.
Allez-y.
On va se marrer. Hein. Donc demain, histoire de légiste, un médecin légiste du CHU
génial,
de Poitiers.
J'ai enregistré hier ça.
Il a traité 450 dossiers de mort suspecte.
Donc je vais raconter une histoire.
Oh, non. Et vendredi, l'étrangleur de Strasbourg.
Oui, ça voilà. C'est une rediffusion.
Mais je voulais qu'on parle également de cette émission ambitieuse que vous préparez avec Robert Blinter. Quel va être le contenu alors ?
Enregistré demain. En fait, je vais raconter en quatre épisodes. C'est probablement un des textes les plus forts qu'il m'ait été donné de raconter. C'est la manière dont, à travers deux procès, le procès de Roger Bontemps en 1972 devant la cour d'assises de l'Aube et le procès ensuite de Patrick Henry, devant la même cour d'assises, c'est ça qui est très intéressant, comment s'est construite la conviction absolue de Robert Badinter qu'il fallait abolir la peine de mort, chose qu'il a faite ensuite lorsqu'il est devenu garde des Sceaux de François Mitterrand. C'est un récit de l'intérieur, du point de vue de l'avocat de ces deux procès. Et ce sont deux textes, deux livres qui s'appellent L'abolition et l'exécution, plutôt l'exécution et l'abolition, dont j'ai tiré ce texte en gardant 90% de mots venant de Robert Badinter. Il y parle, je pense, comme personne ne l'a fait aussi bien, de ce qu'est le métier d'avocat. Moi, ça m'a vraiment, je me suis éclaté à écrire ces textes que j'ai écrits il y a un certain temps déjà. Et nous enregistrerons demain les quatre interviews avec Robert Badinter. Et ce sera diffusé non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Ça va faire événement parce que, à mon sens, la puissance du texte de Badinter est telle qu'elle nous cloue sur place. Vraiment, ça sera quelque chose de très fort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Je vais parler du podcast. Si les gens travaillent entre 14h et 15h, il y a évidemment le podcast, ça marche très bien. Vous êtes très suivi.
Oui, le podcast marche très bien. Ouais. Oui, on a des raisons de penser. Bon, le monde du podcast est actuellement un bordel sans nom, dans lequel on a peu de statistiques et surtout pas de classement. C'est-à-dire, personne ne sait qui est numéro 1 du podcast en France, qui est numéro 2, numéro 3. Ce qu'on a, c'est les classements que nous fournissent les grosses applications de podcast, comme
Spotify,
iTunes, par exemple, qui nous classe deuxième, podcast français, et d'autres nous classent deuxième. A priori, nous nous situerions entre la deuxième et la troisième place. On joue avec Affaires Sensibles, l'émission de France Inter, qui est assez proche de la nôtre. Donc il y a une logique là-dedans. Et donc voilà, on se tire la bourre pour la deuxième place. La première place étant tenue par les inamovibles grosses têtes d'RTL. Sont donc des émissions de radio qui tiennent le lead des podcasts. Mais oui, ça marche. Alors après, combien de gens m'écoutent en podcast? Je ne sais pas répondre à votre question et personne ne saura répondre à cette question.
Personne ne sait jamais répondre sur aucune émission. Christophe Ondelat, toute la France vous connaît à cause de l'émission Faites Entrer l'Accusé. Vous avez présenté, de 2002 à 2011, vous avez arrêté de vous-même. L'émission a été reprise par Frédéric Lantieri. Or, France 2 a décidé d'arrêter de produire cette émission, comme c'est le droit de chaque chaîne. Et l'émission sera désormais diffusée sur la chaîne RMC Story. Mais sans vous, ça sera une nouvelle émission. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Au début, ça m'a inspiré de la colère parce que, bien entendu, personne ne m'a prévenu. Et donc, on apprend par la presse qu'on est vendu, quoi.
Ouais.
Comme on a travaillé pour le
vendu, il faut expliquer, parce que c'était racheté.
Oui,
RMC Story a racheté la collection.
Pour être exploité à RMC Story, par RMC Story. Et quand RMC Story aura cessé de l'exploiter, elle sera sans doute à nouveau revendue. Ainsi, elle a déjà été exploitée tellement de fois, cette émission, puisqu'elle a fait les beaux jours de Planète aussi pendant presque 20 ans. Voilà, au début, on est un peu en colère parce qu'on a l'impression d'être vendu comme des petits pains. Et puis après, on se calme parce que au début, j'ai dit je vais faire un procès, etc. Ouais. J'avais quelques atouts dans ma manche. Au début de cette histoire, on avait des contrats assez faiblards. Petit à petit, ça s'est un peu consolidé et donc probablement qu'il était prévu que cette vente intervienne un jour. Mais au début, les premières émissions étaient peu couvertes par des contrats. Donc j'avais des atouts dans ma manche. Mais je me suis dit, quoi, tu vas faire un procès à la maison de production qui a fait de toi le personnage de Fait Entrer l'Accusé. C'est impensable. D'abord, le fondateur de cette maison de production, Christian Jorin, est un de mes meilleurs amis. Je n'ai que des amis là-bas. Je ne me voyais pas leur faire un procès, même si la boîte a été vendue depuis et qu'elle appartient à TF1. Peu importe, sont les gens qui m'ont guidé dans cette affaire. Je ne me suis pas vu leur faire un procès. Et puis quand même, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui vivent comme ça, au-delà de leur durée de vie
et
normale.
Et même le générique tellement évocateur, en quelques notes, on reconnaît, on est dans l'ambiance.
Je suis pour rien.
Oui, bien sûr, mais
c'est Michel Legrand revisité par Ariel Wiesman, car l'arrangement est d'Ariel Wiesman.
C'est pas vrai.
Sachez-le.
Ah, dis donc, c'est une info, je viens de l'apprendre. Ouais. Vous aimeriez revenir en télé? Vous avez dit au Parisien, c'était en juin dernier, quatre producteurs m'ont contacté, mais j'ai plus de nouvelles.
Alors, depuis, il y a eu des pas, c'est-à-dire que j'ai...
Dites-le en 20 secondes, il me reste 20 secondes.
C'est une histoire typique de France Télévisions, j'ai rencontré la directrice des programmes de France 2, qui m'a dit, on va faire un pilote, on était prêt à tourner le pilote, et la directrice des programmes de France 2, enfin de France Télévisions, est partie.
Nathalie voilà. Darigrand, non ? C'est elle, Nathalie Darigrand.
Et donc, j'ai plus de contact, et mon énergie est raplapla.
Merci beaucoup, Christophe Ondelat, c'est la première fois que j'entends dire que son énergie est raplapla. Je rappelle, Ondelat te raconte, c'est du lundi au samedi sur Europe, de 14 à 15h. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Place maintenant aux digressions des rats d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je.
Rien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Stéphane.
Nous sommes mercredi 19.
Ça fait un bout de temps que je l'attends, celui-là.
Hier, nous disions qu'on allait parler des vivants, mais malheureusement, je vais reparler de morts.
Oh non, non.
Si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai voulu regarder les dates d'anniversaire de certaines personnes. Ben, elles sont mortes.
Mais non.
Mais si, je vous assure, Nicolas Hayek.
Et c'est qui ?
Jules Nicolas Hayek.
Hayek.
C'est celui qui a inventé la Swatch.
Ah oui.
Toutes les heures, vous regardez une invention de ce mec-là.
Il n'a pas inventé la montre, il a inventé la Swatch.
Du coup, il a réinventé la montre. À propos d'inventeurs, il y a des penseurs qui sont des sortes d'inventeurs. Moi, il y a une personne que j'adorais.
J'ai hâte de savoir lequel.
Il avait 84 ans.
Ah, je vois.
Il est complètement mort, hein. Umberto Eco.
Mais je sais même pas qu'il était mort.
Ah ben, voyez, c'est ce que je vous dis.
Il doit une foulée de deux choses.
Formidable bonhomme. Eh ben, il est mort, voilà. Et il a écrit le pendule de Foucault.
Il a été pendu ?
Non, il a écrit le pendule de Foucault.
Oui.
Il y a un an. Karl Lagerfeld.
Mourait. Karl Lagerfeld. Ok.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a ?
Force de parler des morts, moi, ça commence à me miner.
Alors, soyons joyeux, Charles Trenet est mort aussi.
Ah, je savais pas non plus.
Copernic.
Oui.
Il avait 70 ans. Le prénom de Copernic,
c'est Jean
Copernic.
Gustave
Copernic. Nicolas Copernic.
Nicolas.
La Terre tourne autour du Soleil, c'est lui qui l'a observé. Vous aimez un peu tout ce qui est astronomie?
Ah bah, j'adore les trous noirs, j'adore ça, je me perds là-dedans. Trous noirs, j'ai besoin d'être aspiré, j'adorerais.
Mais vous êtes déjà aspiré, hein. Il n'y a pas la moindre lumière qui émerge de votre pensée.
J'adorerais être aspiré par un trou noir. J'avais des fantasmes de la soucoupe volante, je monterais dedans et je disparaîtrais dans les galaxies.
Dans les nimbes.
Vivre d'autres vies sur d'autres planètes.
Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Cosmos de Carl Sagan. Vous vous souvenez ?
Sagan ?
Sagan. A-G-A-N, Sagan, comme oui. Sagan.
Comme Sagan.
Il avait une émission qui s'appelait Cosmos. C'était passionnant.
Mm.
Quand j'étais petit, je regardais ça.
Oui.
C'était sur les étoiles filantes, c'était sur les trous noirs, c'était sur vos paires de mémoire. Il a déjà parlé de vous à l'époque, il était déjà visionnaire, alors que vous ne voyez pas grand-chose.
Donc vous m'étiez féru de ce genre
la
de.
Féru. Qui était féru ?
Féru, vous.
Moi, j'étais féru, oui. Mais tous les enfants sont férus d'astronomie.
Ah bon ?
Ben, je pense, non.
Vous aviez une lunette quand vous étiez petit ?
Oui, j'avais des lunettes. Nous allons passer au jeudi.
Ah, demain.
Demain. Donc je vous salue bien bas. Ça veut dire quoi, salut bien bas ? Ça veut dire qu'on se plie complètement en deux pour dire au revoir ?
En tout cas, vous avez hâte d'aller au jeudi. Vous avez dit, bon, on va passer au jeudi comme si on y était déjà. Or, on n'y est pas. Mais déjà.
J'ai l'impression qu'on fait long, donc je veux faire court.
Ok.
À demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur Europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Cadmerad. Il vient nous parler de la pièce Ami qu'il met en scène et dans laquelle il va jouer en plus. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, pour dire les choses, simplement 80 et 50. On va vous emmener au théâtre faire le tour du monde en 80 jours, en compagnie de Phileas Fogg évidemment et de Thierry Géfrotin, ça c'est des mots attendus. Et puis de la musique avec un anniversaire, les 50 ans de ABC, des Jackson 5. On en parle avec Angèle Châtelier. We'll be right back.